Madame Ascar.
Merci beaucoup. Juste, je voudrais poser la question autour de cible 4.4, c'est-à-dire voir l'avancement de la mise en œuvre de ce cible par rapport à l'amélioration du cadre législatif, surtout dans les pays subsahariens, où ça avance sur quel côté pour l'octroiement de compétences en matière de technique et professionnelle par rapport à l'acceptation des compétences des jeunes et des adultes pour avoir un travail décent et à l'entrepreneuriat. Merci.
Si. La France.
Merci pour cette présentation qui est, enfin, c'est vraiment une approche intéressante des ODD. Je n'ai pas encore vu le rapport, mais je me demandais s'il n'y avait pas quand même, par rapport à cette reddition de compte, des visions différentes selon qu'elles viennent d'un pays en développement ou pas. Je prends l'exemple du rapport France qui a été présenté en 2016, j'ai eu l'occasion de le voir, et on avait constaté que c'était quand même un satisfecit global que la France s'envoyait à travers son rapport. Alors que nous, société civile, on avait l'impression qu'il y avait quand même des points qui auraient pu être largement améliorés. Je prends l'exemple de l'accès à l'éducation des enfants du voyage, des enfants migrants, la question de la formation des enseignants. Enfin voilà, on avait pointé quelques éléments qui auraient mérité que des indicateurs de progrès puissent être évoqués. Et donc je voulais savoir par rapport à ça, à partir du moment où un pays fait son rapport et que l'on voit une marge de progression peut-être qui peut être jugée insuffisante, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on va insister auprès de ces pays pour qu'ils retravaillent ces éléments-là? Est-ce qu'il y a des aides qui pourront être apportées sous une forme ou sous une autre? C'est-à-dire que est-ce que ce rapport termine quelque chose ou au contraire il est considéré comme au contraire le début encore d'une autre étape jusqu'en 2030? Merci.
Merci. La Maurice, par ici.
Merci pour le rapport. Et une petite observation, c'est que le rapport semble occulter le fait que les syndicats jouent un rôle prépondérant dans l'influencement des politiques éducatives. C'est incontestable que l'État reste l'acteur clé, mais toujours est-il que les syndicats et les syndicats forts peuvent bien influencer beaucoup de choses dans certains pays. Et en amont, il faudrait que le rapport parle aussi de la prolifération syndicale qui gangrène beaucoup de pays. Et que l'État est là à promouvoir cette prolifération. L'État ne préconisera jamais une politique de l'unité syndicale. Et cette unité syndicale découlera du fait de l'unité des enseignants, des acteurs et de la société civile. Et on en parlait hier de peut-être des alliances, des coalitions qui doivent se former pour pouvoir véritablement influencer les décisions éducatives dans plusieurs pays, pour pouvoir surtout, si ce n'est pas pour stopper la privatisation de l'école, mais quand même pour freiner cette marchandisation dont on est tous d'accord ici. Merci.
Merci pour cette contribution. RDC.
Oui, merci beaucoup. Par rapport à la question de la reddition des comptes dans l'éducation, bien entendu, je ne sais pas, mais ça c'est peut-être une question, mais de cela je vais faire notamment des observations ou des constats. Quel est le taux, par exemple, en termes de reddition des comptes des pays africains qui ont rendu compte 2015, 2016, 2017, est-ce qu'il y a des chiffres? Je n'ai pas encore lu le rapport dans son entièreté, mais en fait, j'aimerais savoir un peu quelle est la situation de l'Afrique en termes de reddition de comptes par rapport aux EDD. En fait, cela, je pose cette question parce que mon constat, c'est que pour la plupart des cas, beaucoup de pays africains, depuis 2016, n'ont pas fait l'effort de rendre compte par rapport aux EDD, aux ODD. Et là, il y a un autre aspect. Comment peut-on encourager ces pays à rendre effectivement compte lorsque, pour la plupart, ils traînent encore dans le processus d'alignement de leurs plans nationaux aux ODD. C'est le processus actuel dans beaucoup de pays. Je sais que pour mon pays également, c'est le cas. Le pays a une stratégie sectorielle, un plan national, qui tarde effectivement à être mise en œuvre efficacement parce que on attend encore l'alignement, le processus d'alignement de cette stratégie-là se termine au niveau des ODD. Alors là, c'est tout un problème. Ça veut dire que les pays ont des raisons aujourd'hui de dire qu'effectivement, nous attendons encore, alors que le processus des ODD court déjà. Voilà un peu ce que je voulais faire remarquer à ce sujet.
Merci beaucoup pour toutes vos contributions et les questions. Je vais donc redonner la parole à Madame Bella pour ce deuxième tour. On en profitera pour revenir sur la question de la langue qui avait été posée par la France tout à l'heure.
Merci. Alors concernant la question sur l'alphabétisation dans un monde numérique, c'était effectivement le thème de la journée mondiale de l'alphabétisation qui a été organisée à l'UNESCO. Et j'ai assisté à certaines des réunions. Et il y a dans une des réunions, effectivement, il y a des acteurs qui disaient que, effectivement, dans un monde numérique, le numérique devait, comme on le prône pour les autres types d'apprentissage, devrait être quelque chose qui pouvait être utile justement dans les programmes d'alphabétisation. Mais il y avait un mais qui allait avec ça. C'est-à-dire que la question, c'est de dire qu'évidemment, parce que souvent les gens qui prônent l'utilisation d'éthique justement dans l'apprentissage, ils prennent l'exemple du fait que même en Afrique, le taux de pénétration des téléphones portables est de plus en plus important, donc du coup, le portable est forcément un outil qu'on peut utiliser. Mais la prudence est de dire que pour que l'éthique joue vraiment leur rôle dans l'éducation, parce que, un, déjà, il n'y a pas un seul mode de technologie d'information et de la communication. Il y a différents modes. Il y a l'informatique, mais il y a également la radio qui continue à être un mode important. Il y a la télévision, donc il n'y a pas un mode unique. Mais qu'il y a quand même cette question, quand on parle de la pénétration du numérique en Afrique ou dans les pays en développement, c'est-à-dire que cette question doit absolument aller de pair avec la nécessité de développer l'infrastructure nécessaire justement pour qu'il n'y ait pas cette question on dit en anglais divide, cette espèce d'inéquité dans l'utilisation du numérique. Donc il faut absolument investir également dans l'infrastructure, par exemple mettre les ordinateurs dans les écoles, mais sans s'assurer que les pays ont de l'électricité, ça n'a pas beaucoup de sens parce que l'ordinateur ne marche pas tout seul, hein, il faut bien qu'il y ait une source d'énergie. Donc ça veut dire que c'est une vision d'ensemble du développement qui doit avoir lieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre l'accent sur un aspect et pas sur d'autres. Il faut vraiment avoir une vision holistique des choses. Donc le numérique, oui, mais encore faut-il que l'infrastructure appropriée soit présente. Alors la question de la langue, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont multilinguistiques. Donc c'est et effectivement dans ces pays-là où cette question de la langue d'apprentissage se pose, parce que Il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas forcément la langue officielle à la maison et qui parlent leur langue maternelle. Donc, c'est de s'assurer que l'apprentissage se fait dans une langue que comprend l'enfant. Et si l'enfant ne comprend pas la langue, comment voulez-vous qu'il l'apprenne? Il ne va pas apprendre. S'agissant du privé, il y a des pays où même dans le public, l'apprentissage ne se fait pas dans la langue de l'enfant. Et effectivement, encore plus dans le privé. Donc, s'il y a une réglementation qui prône cette politique par rapport au secteur public, le secteur, cette réglementation doit également s'appliquer au privé, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le privé est également redevable. Le privé doit suivre des réglementations en cours dans les pays et doit les appliquer. Je pense qu'il n'y a pas d'exception quelconque qui soit qui puisse s'appliquer au privé. Donc, le privé joue un rôle, mais il doit être redevable et respecter les réglementations en cours dans les pays. Bah, c'est justement, j'aimerais quand même souligner que ça fait des décennies qu'on prône la participation dans la gestion des systèmes éducatifs, dans la décision politique, dans la définition des politiques. Donc, les pays doivent avoir une approche participative dans leur définition des politiques qui implique tous les acteurs de l'éducation. Donc, l'éducation est, c'est vrai, d'abord du ressort des gouvernements parce qu'ils ont un rôle à jouer primordial pour garantir le droit à l'éducation, mais les autres acteurs doivent être partie prenante. C'est bien pour ça qu'on dit partie prenante. Donc l'État, à lui tout seul, ne peut pas décider des politiques éducatives, mais se doit d'impliquer les autres acteurs de l'éducation. Donc la question de la... Quand on a un rapport qui est beaucoup trop positif, ben je pense qu'un rapport, quand il est fait, il doit également suivre cette approche participative parce que ça doit être, c'est tous les acteurs qui doivent contribuer à ce type de rapport. Ben nous, la manière dont on fonctionne à l'équipe du rapport, c'est que on travaille avec des sources diverses et variées de l'information, et pour s'assurer de l'objectivité des informations, on fait ce qu'on appelle, on triangule les sources pour s'assurer que voir si elles disent toutes la même chose et quand elles ne le font pas, de voir qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui ne cloche pas. Donc c'est une approche qu'il faut faire. On a différentes sources d'informations. Si les pays doivent faire un rapport, il faut qu'ils fassent contribuer également les universitaires, la société civile qui œuvrent justement par rapport à l'éducation. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif et participatif justement pour éviter d'aboutir à des rapports qui sont des rapports où on se jette des fleurs et ainsi de suite. C'est vraiment un rapport, c'est des rapports qui doivent être collaboratifs et collectifs au niveau des pays et également au niveau international. Justement, au niveau des pays africains, quel est le taux en termes de réduction de comptes? Alors, on a un indicateur pour pouvoir dans quelle mesure les pays tendent à rendre des comptes. Tout à l'heure, j'ai mentionné la nécessité des pays eux-mêmes de faire un travail de suivi. Hein? Donc, par exemple, un rapport de suivi, ça peut être un indicateur de la manière ou de la volonté d'un pays de faire, de rendre des comptes. Parce que c'est à travers ce genre de rapport qu'on dit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on compte faire, les perspectives d'avenir. Donc, d'abord, faire un travail de suivi des politiques qu'on met en place pour que ça... pour pouvoir, encore une fois, si on va dans la bonne direction. Et il faut quand même souligner que les pays ont quand même un rapport assez complexe avec la question du suivi. Pour ne parler que du nouveau programme du développement durable, les pays ont freiné des quatre fers pour que cette question du suivi soit au centre. Donc, il y a des termes qu'on utilise pour ne pas les froisser, on va utiliser un terme comme revue et non pas suivi, Alors que quand on dit suivi, on demande forcément des comptes. Alors que la revue, bon, voilà, on a fait, on n'a pas fait. Mais est-ce qu'on rend des comptes? Non. Donc les pays eux-mêmes ont cette position un peu complexe avec, avec, avec la question du suivi de leur politique afin de rendre des comptes. Mais cela dit, je pense qu'il ne faut pas être trop négatif, trop pessimiste, parce qu'il y a des pays qui eux-mêmes sont beaucoup plus critiques par rapport à leur action. Donc, de plus en plus, on le voit. Est-ce l'effet du fait qu'il y a de plus en plus des rapports comme le nôtre, où les pays eux-mêmes sont, sont dans l'expectative de ce qu'on va dire d'eux, et qui, justement, ce genre de rapport influe sur leur propre pratique. Donc, je pense que plus il y aura ce type de rapport, mieux ça serait pour les pays eux-mêmes, pour que, encore une fois, la reddition des comptes, effectivement, elle va se faire au niveau mondial, parce qu'il y a des pays, il y a des objectifs au niveau mondial. Mais ça se fait avant tout et d'abord au niveau des pays eux-mêmes, parce qu'ils ont leur propre politique éducative. Il faut qu'ils les suivent au niveau national avant tout, parce que c'est à leur propre population qu'ils doivent rendre compte en premier lieu. Voilà.
Merci. Il y a un doigt insistant derrière et ça me permettra d'équilibrer de façon presque parfaite, comme j'en rêvais, les interventions entre hommes et femmes. Oui, madame, vous avez une minute.
D'une manière critique, si l'État a suivi ses recommandations ou non, quels sont les problèmes, quels sont les obstacles? Par exemple, quand je prends le comité des droits économiques et sociaux, et vous savez qu'il y a un volet qui est dédié à l'éducation. C'est une manière de rappeler par rapport à ce mécanisme, l'ODD4, de dire que voilà ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et le problème, c'est qu'il y a un problème de collaboration entre, par exemple, les syndicats et les organisations de défense des droits humains. C'est extrêmement important parce que nous avons la latitude de présenter des rapports alternatifs. Quand l'État présente des rapports, nous examinons ces rapports pour voir quels sont les insuffisances pour pouvoir le combler à travers ce rapport alternatif. Par rapport aussi à l'examen périodique universel, normalement, on demande aux États à ce que toutes les organisations, que ce soit les syndicats, tout le monde doit participer à l'élaboration de ces rapports et de montrer d'une manière critique qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Donc, on souligne ce qui est positif, mais en même temps, les insuffisances, on les souligne. C'est ce que je voulais tout juste ajouter.
Merci beaucoup, Nicole Bella. Pour notre propre crédibilité et renforcer nos capacités, on a besoin de maîtriser les situations, notamment dans nos différents pays. Donc, ça nous donnera l'occasion de plonger dans ce rapport pour mieux maîtriser les situations et faire le plaidoyer, la mobilisation. Ah, ok, oui, sur la cible 4-4, elle avait demandé. Bon, je pense que, comme on l'a dit, le document est disponible et il y a une partie qui traite de long en large sur les différentes cibles. Elle n'a pas pu tout revenir, mais je crois qu'on a la possibilité de trouver les réponses à cela en regardant le document. C'était ce que j'étais en train de dire. Il faut qu'on plonge. Ça, c'était juste une introduction. Il faut qu'on plonge dans les documents, qu'on les maîtrise, qu'on sache ce dont on parle quand nous sommes en face des pouvoirs publics et autres. Et donc, c'est pour ça que cette séance, à mon avis, était très importante pour nous. Donc, on vous remercie beaucoup. Les gens nous ont suivis avec attention. Et merci pour la qualité des réponses. Je vais vous redonner la parole pour une à deux minutes. Quels sont les messages principaux que vous auriez envie d'adresser aux participants à cet atelier avec tout ce qui a été fait? Merci.
Je crois que le message principal, je dirais simplement que ce rapport que nous faisons et que nous publions tous les ans, c'est vraiment un rapport au service de tous ceux qui œuvrent en matière d'éducation, y compris vous. Donc, ce n'est pas un rapport que nous faisons pour nous, c'est un rapport que nous voulons utile et qu'il serve, encore une fois, à la cause de l'éducation que vous défendez tous. La chose que je vais souligner également par rapport à la question de la reddition des comptes, c'est dire que, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il y a des organisations internationales qui prônent la reddition des comptes et qui ne voient que cet aspect, mais c'est un moyen au service d'une fin. Donc, un autre aspect, c'est de dire que l'éducation, c'est une responsabilité partagée. C'est partagé par tous, par tous les acteurs, y compris les parents, les élèves eux-mêmes et les étudiants, justement. Et chacun à son niveau est responsable et doit rendre des comptes, mais on ne peut encore une fois demander à quelqu'un de rendre des comptes pour des choses qui ne sont pas de son ressort et qui sont au-delà de son contrôle. Donc c'est un principe qui a animé la façon dont nous avons abordé cette question, qui n'était pas facile, parce que ce n'est pas un sujet facile. Nous avons tous des approches différentes, des compréhensions différentes de la question de la redevabilité. Mais nous avons essayé simplement de dire que le blâme ne doit pas être au centre de la question de la redevabilité. Ce qui doit être important, c'est de soutenir, d'apporter un soutien adéquat aux différents acteurs afin qu'ils s'acquittent de leurs différentes responsabilités. C'est tout. Merci.
Merci beaucoup, Nicole. Merci à tous pour votre participation de qualité.